œil.
Dans ce journal, on va parler des Jeux du Pacifique avec les épreuves de natation qui n'auront finalement pas lieu à Mamao. On retournera également à l'Assemblée où les débats se poursuivent, puis au tribunal. Et nous finirons par les journées du handicap et l'agenda du week-end. Le journal de la mi-journée, c'est avec Lucie Ceccarelli. Bonjour Lucie.
Bonjour Sanchez. Mais avant tout cela, une information de dernière minute qui vient de tomber. Un bateau est en feu au large de la baie de Cook à Moorea. Le JRCC est actuellement en opération. Des photos ont déjà été partagées sur les réseaux sociaux. On peut voir une grosse fumée noire s'échapper d'un bateau. On n'en sait pas beaucoup plus pour le moment. Nous vous tiendrons au courant sur notre site radio1.pf.
Et dans le reste de l'actualité, il n'y aura donc pas de bassin démontable aux Jeux du Pacifique l'an prochain.
En effet, le ministre des Sports, Keinu Utemaori, a annoncé hier que les deux bassins qui devaient être installés à Mamao ne seraient finalement pas commandés. Ces bassins inox temporaires étaient destinés aux compétitions de natation, une piscine de 50 mètres et une autre de 25 pour un coût de 2,6 milliards. Ce n'est pas un problème de financement, mais je cite une question de timing. Les retards accumulés ces dernières années sur les bouclages de financement, les lancements d'appels d'offres et les études préparatoires ont abouti à ce rétro-planning trop serré, trop risqué aussi. Le ministre était au micro de Charlie René.
Là, on est purement sur du timing. Il faut dire quand même qu'en termes de rétro-planning, on arrive sur quelque chose qui nous fait livrer l'infrastructure la veille des Jeux du Pacifique. S'il ne pleut pas, si le BTP est super répondant, si on n'a pas de soucis d'approvisionnement, donc en fait la conjoncture nous permet quand même de dire que c'est très compliqué de pouvoir se projeter avec certitude. Aujourd'hui, on n'est plus dans l'heure, on n'est plus à l'incertitude. Il faut qu'on puisse prendre des décisions concrètes. Encore une fois, il s'agit de 2,6 milliards d'argent public et moi je ne peux pas prendre la responsabilité de pouvoir jeter à la poubelle cet argent-là.
Cette décision prise en ce milieu de semaine est assumée, selon les propos tenus par le ministre devant le gouvernement et annoncée aux différents partenaires des Jeux, notamment le Comité olympique de Polynésie et le Comité d'organisation de Tahiti 2027. Cette décision d'aller sur Tiperui est, je cite, irréfléchie et elle n'est pas basée sur des choses qui sont censées... Seule option, la piscine de Tiperui, la possibilité d'organiser les épreuves de natation dans cette piscine sont désormais à l'étude, mais le site ne pourra pas être mis aux normes internationales à temps. Les records et minima établis par les nageurs pendant les Jeux ne pourront donc pas être homologués.
Il est très précisément écrit dans la charte des Jeux du Pacifique qu'on doit se conformer aux exigences internationales, sauf quand il est déraisonnable de le faire. Aujourd'hui, on est dans cette situation où il est déraisonnable de le faire. Je tiens à dire quand même que j'ai sollicité l'ensemble des parties prenantes. Certains, je les ai informés, d'autres, où j'ai posé des questions. Mais tout le monde était impliqué dans cette décision-là. C'est une décision qui est mûrie et qui est lucide de mon côté. C'est de l'argent public et je ne peux pas faire n'importe quoi avec.
Des compétitions, des médailles, mais pas de qualification pour des épreuves olympiques ou mondiales, ni d'homologation officielle de record. Le ministre parle d'un choix difficile, mais d'un choix raisonné. D'autres questions restent en suspens, notamment concernant le bassin d'échauffement et de récupération, normalement exigé à ce niveau de compétition. Mais les discussions ne font que commencer avec toutes les parties prenantes, le Pacific Games Council, le COJ, le COPF, la FEDE ou encore l'État, tous impliqués dans le dossier.
Et cette annonce du ministre qui fait réagir.
Du côté du Tapura d'abord, où on parle d'un fiasco, d'une humiliation pour la Polynésie, où on dénonce 3 ans d'hésitation qui ont mené dans l'impasse, je cite, 3 ans pendant lesquels le gouvernement Brotherson est accusé d'avoir déconstruit de manière systématique les décisions de la mandature Fritsch par blocage idéologique ou par incompétence. Les Jeux du Pacifique 2027 devraient être une vitrine pour notre pays, ils sont en train de devenir le symbole d'un pouvoir hésitant, désorganisé et incapable de tenir ses engagements, écrit le parti autonomiste. Ce n'est pas seulement un problème d'organisation, c'est un problème de gouvernement. Fin de citation. Et du côté de la Fédération Tahitienne de Natation, le président se dit dépité. Michel Sommers ne comprend pas du tout la décision du ministre. Pour lui, le chantier était dans les temps. Écoutez.
C'est étonnant, hein, les sources divergent et on n'a pas le même niveau d'information. Et même si le timing était, on va dire, serré, on est en capacité, je pense, pour une telle infrastructure, à vraiment retrousser ses manches et de dire qu'on fait tout pour y arriver. Hein. Enfin, là, je sais que toutes les entreprises locales, enfin, toutes les administrations sont capable de se mettre en mode attaque pour qu'on puisse livrer les Jeux. Et c'est une information qu'on a eue du maître d'œuvre qui dit que à ce jour, il n'y a aucun écart de délit. Il n'y a pas de risque pour l'instant. Et dans le schéma initial des bassins, ils doivent être livrés fin avril, début mai.
Cette décision d'aller sur Tiperui est, je cite, irréfléchie. Elle n'est pas basée sur des choses qui sont censées et réalisables. Michel Sommers rappelle que Tiperui a été construit en 1970 et il y a énormément de travaux à faire. Les plots, les murs qui ne sont pas droits, toute la machinerie, les pompes, les vestiaires, les gradins. Et c'est finalement retour à la case départ avec sûrement des études à faire avant de lancer d'éventuels chantiers.
Politique maintenant avec les débats qui se poursuivent à Tahiti.
Oui, après une séance mouvementée hier, l'Assemblée a repris ses travaux là où elle les avait laissés. L'ordre du jour a tout de même été bien dégagé, Charles Iréné.
Oui, Lucie, on vous l'annonçait hier, le projet de loi de pays sur les titres restaurants Tamam Etaï a été retiré de l'ordre du jour par le gouvernement après un long débat et alors que se profilait un rejet en bloc par le groupe Tavigny et les autonomistes de ce texte. Le projet de loi du pays sur l'aide au logement a subi le même sort et pour les mêmes raisons, l'exécutif en revanche gardait l'espoir de faire passer son texte sur le bail réel à Noé, qui doit permettre de faire naître des projets immobiliers à loyer plafonné sur le domaine public du pays et donc accélérer la construction de logements intermédiaires. Seulement là aussi, difficile d'avancer sans majorité. Tavigny, Tapura et AIP ont pointé du doigt certains mécanismes de la loi ou certains plafonds financiers qui, d'après eux, ne sont pas cohérents avec les réalités économiques et sociales. En face, le gouvernement et le groupe Afanotia se sont étonnés de ces postures alors que peu d'amendements avaient été déposés en commission, en tout cas du côté du Tavigny. L'exécutif a tout de même accepté en fin de séance hier soir d'écrire lui-même des amendements correspondant aux remarques des élus. Il y en a une foule, elles ont été déposées ce matin, ce qui a motivé Tony Géros à demander un nouveau report dans l'étude du texte. Le bail réel n'est donc pas enterré, mais toujours pas voté, Lucie.
Et ça n'a pas marqué la fin des débats. Les élus ont débattu de la nouvelle convention santé sur laquelle le pays et l'État ont fini par s'accorder en janvier, mais que l'Assemblée doit avaliser. Ce genre d'approbation est souvent une formalité, mais là encore, vu la déchirure du Tavigny, les débats sont relevés, Charlie.
Et oui, les autonomistes n'ont pas manqué de constater que la nouvelle convention qui devait à l'origine être renégociée dès 2023 reprenait l'existant, le réorganisait, mais n'apportait finalement que peu de nouveautés, comme l'a pointé Nicole Sanquer. Le gouvernement n'a pas réussi à obtenir les avancées qu'il souhaitait sur la prise en charge par l'État des molécules onéreuses et des évacuations sanitaires urgentes. Certes, d'autres négociations doivent avoir lieu à Paris sur ces questions et sur une future convention solidarité, mais vu l'instabilité politique qui existe aussi au national, les engagements obtenus sur ces points sont peu fiables. C'est en tout cas ce qu'ont remarqué les élus autonomistes. La sénatrice Lana Tetonouille a en outre déploré que les quatre parlementaires autonomistes n'aient pas été associés par le gouvernement dans leur démarche à Paris. Quant au Tavigny, il a critiqué la politique du gouvernement, notamment en matière de prévention ou de l'état de l'hôpital public. Cédric Mercadal, face à ces attaques, a expliqué que ces conventions renvoyaient tout de même en profondeur certains mécanismes de coopération avec l'État qui étaient jusque-là peu pratiques, voire bloquants pour les autorités sanitaires du pays. Il précise surtout que l'exécutif avance sur le statut des établissements publics de santé, sur celui des soignants et sur d'autres réformes de fond. Nous tenons nos promesses. Voilà ce qu'a dit le ministre de la Santé. Les débats sont encore en cours à Taraoui, Lucie.
Et des débats, il va y en avoir dans cette session administrative qui dure jusqu'à la fin du mois de mai. On vous le rappelle, le groupe Tavigny, le groupe Tapura et les deux élus Ahere Yapurinetia de l'Assemblée ont déposé hier une proposition commune d'abrogation de la réforme du RNS. Le gouvernement, lui, compte bien s'accrocher au texte voté en septembre. Il prévoit une grande réunion d'information et de discussion publique ce samedi à 15h sous le chapiteau de la présidence.
Et ce matin au tribunal, une audience portée sur le décès d'une fillette survenue sur un stade de foot il y a 6 ans.
Oui, les faits se sont déroulés le 9 octobre 2020 sur le stade de l'AS Excelsior dans le quartier de la Mission. Une enfant de 8 ans avait perdu la vie après la chute d'une cage de but sur laquelle elle se balançait. L'équipement construit en 1975 s'était renversé et avait écrasé la victime qui avait succombé à ses blessures à l'arrivée des secours. Ce vendredi, le président de l'association Bruno T. Haha Moana ainsi qu'une représentante de l'association jugée en tant que personne morale, comparaissait devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire par violation d'une obligation de sécurité. D'après l'expertise, la structure était jugée non conforme et donc dangereuse.
Et nouvelle
Le président, qui a évoqué des problèmes financiers ainsi que des demandes de subventions 2 ans avant les faits pour changer ses cages de foot, a également pointé une négligence de la part des parents. Selon lui, il savait que la structure était défectueuse. Le parquet a requis 2 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme pour le président de l'AS Excelsior et une amende à hauteur de 4 millions de francs pour l'association. Le délibéré sera rendu au mois de mai.
Et hier, une nouvelle présidente à la CCISM a été élue, Lucie.
Oui, elle était l'unique candidate à la succession de Kelly Hassine Moux. Elle travaillait déjà au sein de l'équipe de direction actuelle depuis 2 ans et demi. Un passage de relais fait en concertation avec les 36 élus consulaires qui va permettre à la Chambre de poursuivre ses projets lancés ces dernières années. Parmi ces dossiers, le gros projet aéroportuaire. La CCSM s'est positionnée pour la concession de l'aéroport de Tahiti-Faa en faisant équipe avec le groupe Aegis. La réforme du système d'information du centre de formalité des entreprises aussi fait partie de ces dossiers. Une digitalisation pour faciliter les ouvertures des patentes.
l'idée, c'est vraiment de continuer là, le travail qui a été effectué sur le centre de formalité. Hein, puisqu'en fait, c'est ce qui a été peut-être un bémol au niveau de la chambre de commerce, c'est qu'il faut que ça aille plus vite. Parce que les entreprises, ils ont besoin de trouver des informations à un endroit précis, de ne pas avoir à courir à droite, à gauche, de pouvoir démarrer rapidement. On a déjà l'administration qui est souvent un frein par rapport à la réalisation de projets. Et donc, la CCSE ne doit pas être un frein, elle doit vraiment être un accompagnateur.
Terenoui Amblin Eliakot a maintenant 2 ans et demi pour mener à bien la seconde phase des réformes attendues au sein de la CCSM.
Et c'est ce midi que se sont clôturées les journées polynésiennes du handicap.
En effet, avec une course ce matin suivie d'un concours de danse. Depuis mardi, ces journées se tenaient au parc Aureitiniho sur le thème de Tahiti 2027. Plusieurs activités étaient mises en place, par exemple l'atelier Sessi Foot, une adaptation du football pour déficients visuels avec l'utilisation d'un ballon sonore, ou encore un parcours d'essence où il fallait se mettre dans la peau d'un aveugle. Les explications de Tevanui Mei, chargée d'inclusion sociale et professionnelle au sein de la fédération Teniu Otehuma, qui regroupe des associations œuvrant dans le domaine du handicap.
Notre atelier à nous, la Fédération Teniu Otehuma, ont proposé de comprendre l'accessibilité en se mettant en jeu en simulation d'un handicap où il fallait réaliser un parcours. Et ce n'est pas seulement réaliser le parcours, mais c'est aussi réfléchir derrière quelles sont les difficultés que l'on a rencontrées et quelles sont les améliorations que l'on pourrait apporter pour justement rendre plus accessibles les sites sportifs des Jeux du Pacifique 2027.
Ces journées polynésiennes du handicap ont offert aux familles et à leurs proches l'occasion de partager des moments conviviaux et de se divertir, mais elles ont aussi permis de mettre en lumière les difficultés et les insuffisances auxquelles sont confrontées les personnes en situation de handicap au quotidien.
L'important à faire remonter, c'est de rendre plus accessible notre Polynésie, nos structures, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que certains établissements ont l'appellation accessible, mais derrière, lorsqu'on analyse, ne sont pas forcément accessibles à toutes les personnes. On ne parle pas forcément que d'accessibilité des lieux publics, mais aussi l'accessibilité numérique. Et c'est pour ça que nous, on essaie de rendre plus accessibles ces informations en utilisant une méthode FALC.